Merci, merci. Tu sais que les habitants des îles sont tellement fiers de leurs îles qu'il ne faut pas que tu mêles les îles, parce qu'il y a des risques d'incidents diplomatiques internationaux. Ne mêle pas les îles. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être ici, comme je l'ai mentionné à quelques reprises hier pour ceux qui étaient là. C'est un petit peu un retour aux sources pour moi, parce que il y a, je sais pas si je dois le dire, 43 ans de cela, je me suis converti dans une assemblée des frères à Drummondville, sur le boulevard Mercure, toute petite église qui n'existe plus maintenant. Je pense qu'elle existait juste le temps que je sois sauvé après coup, c'était plus nécessaire. Moi, je pouvais travailler au royaume de Dieu. Non, je blague. Et c'était, encore une fois, un changement dans ma vie tellement important. Je ne vous dirai pas à quel âge je me suis converti, pour ne pas vous commencer à compter les dates et savoir un peu quel âge j'ai aujourd'hui, puisque j'essaie de retarder le vieillissement. Mais c'est quelque chose de pas facile. Le titre du message de ce matin, comme vous le voyez sur la diapo à l'écran, c'est « Des amis pour la vie ». Non seulement, bien sûr, je me suis impliqué au fil de toutes les années auprès des couples, mais je m'intéresse beaucoup à la notion de transformation, notion de changement. Je me questionne toujours, encore et toujours, sur qu'est-ce qui fait que des gens changent et des gens ne changent pas. Comment on peut activer tout cela? Plus j'étudie le Nouveau Testament, plus je comprends une certaine mécanique se cache derrière parfois les manifestations assez percutantes dans la vie des gens. Mais juste avant, permettez-moi un petit peu de vous mettre un peu dans un contexte de ce que je vais vous apporter ce matin. Il y a des moments dans la vie où certains événements marquants nous influencent à un point tel que ça change la trajectoire, ça modifie le cours de notre vie. Ce que je vais vous raconter en introduction à ce message ce matin, c'est passé en 1984. Ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais dans le ministère et j'étais arrivé à un moment, comme il nous arrive tous et chacun, où j'avais soif, j'avais faim, j'étais sec à l'intérieur. Et là, je participais à une semaine de formation intensive, ce qu'on appelle les instituts d'été. Et tout ça se passait à Philadelphie, juste dans un séminaire théologique. Juste le nom va vous donner un peu un avant-goût de ce que j'ai pu vivre cette semaine-là. Ça s'appelle Westminster Theological Seminary. Donc déjà, pensez à des gros bâtiments gothiques avec une formation très intellectuelle et tout cela. Donc j'avais d'énormes attentes cette semaine. J'ai dit « Seigneur, j'ai soif, il faut que tu me parles, j'ai besoin de quelque chose. » Et j'arrive, donc je fais le voyage à l'époque je demeurais à Sherbrooke, de Sherbrooke jusqu'à Philadelphie. Et là, j'ai des attentes démesurées, si je peux prendre cette expression. Et j'arrive là, et la première journée, déçu royalement. Deuxième journée, déçu royalement. Mais c'était tellement intellectuel que j'étais encore plus sec. J'avais le cerveau sèche. J'avais besoin d'une fraîche rosée, non pas d'un coup de soleil supplémentaire pour assécher mon cerveau. Et troisième journée, c'est la même chose. Quatrième journée, la même chose. Là, je suis au désespoir. Jésus, je t'en prie, fait que ce voyage n'ait pas été quelque chose comment dirais-je, d'inutile. Bon, c'est jamais totalement inutile, on en convient. Mais il arrive le vendredi matin où j'assiste à un message par un pasteur américain qui était là pour la journée seulement. Et il a commencé son message par la phrase suivante. Le jour où vous comprendrez que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. Le jour où vous comprendrez que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. Bon, maintenant, pour vous dire toute la vérité, lorsque j'ai entendu cette phrase, je dis, bon, ça y est, voilà l'évangéliste américain qui va nous pomper à l'hélium, OK? Il va nous faire lever, puis 24 heures plus tard, OK? Mais honte à moi, j'ai mal perçu les choses parce que ce jour-là, cet homme m'a convaincu, il a percuté mon cœur, il a impacté ma vie et surtout, ce qui m'a aidé à saisir davantage l'essence de ce qu'il disait, c'est qu'il raconte la venue aux États-Unis d'un jeune homme qui l'a pris en charge. Ce jeune homme-là avait 17 ans à l'époque et pour étudier. Et lui a ouvert ses portes, les portes de sa maison, il a pris soin de lui. Et ce jeune homme-là, il est très connu maintenant, il s'appelle Luis Palau. On l'appelle le Billy Graham de l'Évangile de l'Amérique latine. C'est un gars je l'ai vu en Afrique et partout à travers la planète. Et cet homme qui l'a reçu s'appelle Dr. Ray Steadman, qui est décédé maintenant. Et même Luis Palau, que vous voyez ici dans ses croisades et tout ça, un peu partout à travers la planète, croisade internationale avec un message très bien, très, très, très bien, a dit, j'ai rencontré cet homme de Dieu-là, un véritable homme de Dieu, qui lorsque j'ai passé du temps avec lui, m'a encore une fois impacté. Et surtout, j'ai trouvé ce que je cherchais, quelqu'un qui pouvait m'influencer dans le bon sens, dans la bonne direction. C'est évident que quand on reçoit des gens et on rencontre des gens, on ne sait jamais à qui on a affaire. On ne sait jamais la semence qui est dans le cœur de quelqu'un et jusqu'où tout ça va le projeter. Donc, pour moi, c'est tellement important parce que c'est tout l'univers des relations, c'est tout l'univers de l'impact que nous pouvons avoir comme croyants dans la vie de quelqu'un d'autre. Non seulement les gens nous influencent parfois négativement, malheureusement, mais parfois les gens nous influencent positivement, ils nous font faire des pas de plus. Et si vous regardez l'ensemble de votre vie, vous allez remarquer que souvent, certaines étapes de votre vie sont jalonnées de personnes, comme un peu comme des bornes qui vous ont conduit jusqu'à quelque part, vous ont influencé. Dieu les a utilisées dans ce sens-là. Mais si vous voulez, ce matin, je veux aller un peu plus loin dans cette réflexion et qu'on peut se pencher sur un épisode de la vie de Jésus assez étonnant, un épisode que vous connaissez, c'est un texte que vous connaissez très, très bien, mais ce matin, je vais tenter de vous l'amener dans une autre optique et qui va un peu, j'espère, saisir cette Église dans l'impact qu'elle peut susciter dans cette ville, dans cette région et Dieu sait jusqu'où tout cela peut aller. Alors, regardons un peu ensemble le texte. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et le descendirent par cette ouverture. En fait, descendir par cette ouverture, excusez-moi, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, répétez après moi, voyant leur foi. Je ne l'ai pas entendu, je suis un peu dur de la feuille. Voyant leur foi, retenez cela. Dites au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu pareil. » Voulez-vous répéter avec moi? « Nous n'avons jamais rien vu pareil. » Il y a une expression québécoise qui existe, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Et à chaque fois que je suis en France ou en Suisse, que je raconte je dis cette expression, les gens rient en se disant, mais ça ne se dit pas, ça. Il y a une expression québécoise qui dit, plus ça change, plus c'est pareil. OK? Je ne sais pas quelle est l'origine de cette phrase-là, c'est une contradiction en soi, mais le phénomène qui arrive, c'est qu'on s'habitue, vous et moi, au non-changement. On s'habitue à ce que les choses ne se passent pas. On s'habitue à des choses qui sont banales. On peut pas dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous, ce qu'on voit, c'est toujours du pareil au même. Les choses évoluent pas avec des années et tout cela. Mais tout d'un coup, ces gens-là qui assistent à cet événement-là sont complètement renversés en se disant, mais waouh, on n'a jamais vu ça. Et je pense que vous et moi, on peut dire, nous, on a vu des choses qui se répètent constamment, mais on peut pas arriver dans cet état d'étonnement. Et ce matin, on va se pencher sur ce qui a pris place ici et pourquoi les choses ont pris place ainsi. Jésus, donc, est en train de se reposer à la maison. Il est à Capernaum après probablement une longue croisade. Les gens apprennent qu'il est là et toute la foule s'accumule autour de la maison. Et à un point tel, comme on l'a vu dans le texte, il n'y a plus de place devant la porte. J'aimerais, l'espace d'un instant ce matin, laisser un peu aller votre imagination pour saisir un petit peu le contexte. Essayez d'imaginer sa maison, sa petite case ou je ne sais pas comment ça pourrait être, avec un toit de chaume, peu importe l'image. Et vous amenez un petit peu à ce contexte-là en réalisant que les gens ne savent pas qu'il est sur le point de se produire quelque chose, mais il va se produire quelque chose. OK? Maintenant, suivez-moi bien. On va y aller avec une première aspect de la scène. Il y a premièrement, le texte nous dit, « S'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » Alors, quand je regarde ce texte-là, je me suis posé la question, qui sont là? Qui est là? Le peuple, c'est la majorité, c'est la foule. La foule vient là, en grand nombre. Ça symbolise bien sûr la grande majorité des gens, si on fait une application dans la vie moderne. Ce sont des spectateurs, des auditeurs, ce que j'appelle des consommateurs. Des fois, un peu cyniquement, je peux les appeler les voyeurs, parce qu'ils veulent voir quelque chose, un peu comme on veut voir, est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, est-ce qu'il va se passer quelque chose. Pensez aux gens qui assistent à une scène d'accident. Rappelez-vous de certains bouchons de circulation, à un moment donné, toutes les autos n'avancent plus et tout cela, pour savoir qu'il y a un accident sur le côté. Et pour qu'est-ce qui retarde toute la circulation, c'est que les gens veulent voir, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il y a un blessé, il y a un blessé, t'as vu, il y a un blessé, tout cela. Voyez-vous, ça, c'est un réflexe presque naturellement humain de gens qui sont poussés par la curiosité. Eux sont pressés d'entendre Jésus. Et évidemment, leur motivation, c'est la curiosité. Et ils ont un pouvoir dans la situation. Ils ont le pouvoir de nuire, mais je dis inconsciemment. Parce qu'ils s'accumulent et ils prennent la place. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu ces manifestations étudiantes sur Montréal, les fameux carrés rouges, OK? On en a eu un peu ras-le-bol. Ça va la première journée, deuxième, troisième. Je pense qu'ils ont sorti 29 jours ou 26 jours consécutifs. Les policiers de Montréal n'avaient jamais vu ça. Tout le monde est épuisé. Et un jour, je suis à Montréal et je suis en train de dîner avec un de mes amis dans un resto sur Sainte-Catherine, quand tout d'un coup, on entend une espèce de brouhaha. C'est les carrés rouges qui débarquent et qui avancent dans la rue. Et la foule est tellement compacte qu'on essaie de sortir du restaurant, qu'on ne peut même plus d'ouvrir la porte pour sortir du restaurant. Et on était comme ça pendant un petit bout de temps, parce que moi, j'étais un petit peu comme la foule. Je voulais voir ce qui se passait dehors. Voyez-vous? Mais je ne suis plus capable d'ouvrir la porte. Ça a duré de longues secondes dans mon souvenir, jusqu'au moment où l'anti-émeute a débarqué, puis là, elle a dissipé la foule, puis on a pu sortir. Et là, j'ai compris un peu ce jour-là le pouvoir qu'avait la foule. Parce que la foule, c'est à la fois peut-être des centaines de personnes, mais à un moment donné, ça devient comme une seule et unique personne, une espèce de phénomène d'uniformité qui fait que ça devient comme un bloc. D'ailleurs, vous voyez la foule bouger, parfois un peu comme un banc de poissons dans la mer et tout cela, et qui ont un pouvoir. Et dans le contexte ici, ils prennent tellement de place, OK, que lorsque les prochaines étapes vont prendre place dans cette scène-là, les gens ne pourront pas rentrer. Parce qu'eux, un peu, monopolisent tout l'espace nécessaire. Mais il y a non seulement la foule qui est là, il y a une deuxième catégorie de gens. Okay, le texte nous dit, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes? Donc, non seulement il y a la foule, la grande majorité des gens, mais il y a une minorité de personnes qui sont les scribes et les pharisiens. Une minorité de gens, encore une fois, contradicteurs, dénigreurs. Parce que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, qu'est-ce que vous apercevez? Ils cherchent constamment à surprendre Jésus, ils veulent le piéger, et s'il y a une parole qui dit, si guérit l'homme qui était guéri de la main sèche le jour du sabbat, ils ne se réjouissent pas du fait que la guérison a pris place, ils sont offensés par le fait que ça a pris place un samedi. Plein de scènes, plein d'événements. Pourquoi? Parce que la société de l'époque, c'est une société tellement, tellement religieuse. Vous savez, je suis allé en Israël il y a quelques années, et tout le monde me disait, pasteur, donnez, vous allez à Jérusalem, Israël. Je disais, waouh, c'est super. Mais moi, je suis un gars assez terre à terre et assez réaliste. Okay? Je ne connaissais pas Israël, bien sûr, j'ai lu ma Bible depuis toutes ces années-là. Mais je n'étais pas dans un mode qu'on pourrait qualifier fantasmatique. Je vais arriver à Jérusalem et tout ça. Parce que je savais aussi qu'il y avait un phénomène qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, okay, qui est en fait une maladie mentale. Il y a plein de gens qui débarquent à Jérusalem puis ils sautent. Voyez-vous, il y a une espèce de charge qui est là. Les psychiatres connaissent ça, OK? Surtout les psychiatres israéliens. Donc, moi, je dis, bien, soyez rassurés, j'ai survécu à tout cela. Et là, j'arrive là, puis maintenant, j'ai fait une tournée dans plusieurs églises et tout ça. J'enseignais dans un collège biblique là-bas, un institut de théologie à Jérusalem et tout cela. Et de ma vie, je n'ai jamais vu autant de concentration de religion au centimètre carré. Tout est religieux. Tout est religieux. Et si je vous pose la question, croyez-vous que ça va vraiment bien dans ce pays? Je ne parle pas de la guerre avec les Palestiniens. Là. Je parle des familles, je parle des couples, je parle des vies des gens. La réponse, non. Et là, ça m'amène à la question de cette religion qui force les gens et qui les emprisonne dans quelque chose sans que leur vie soit nécessairement transformée. Eux, ici, ne cherchent pas l'intérêt des personnes. Ils cherchent l'espèce de rigorisme. En fait, ce qu'ils sont, eux, c'est les intégristes de l'époque. On entend parler de l'intégrisme. Vous savez qu'il y a une différence entre l'intégrisme et l'intégrité. C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Donc, eux sont toujours pressés, poussés à surprendre Jésus dans une parole, dans un geste, au mauvais moment, dans toutes sortes de choses. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Leur motivation, c'est la critique. Okay? Il y a quelque chose qui monte dans l'être d'eux qui est de là de la frustration parce qu'ils n'acceptent pas Jésus. Et c'est fascinant parce que d'un côté, ils adorent Dieu, de l'autre côté, ils vont faire mourir son propre fils. Ils ont le pouvoir, eux, de nuire, mais eux nuisent consciemment. Ils ont un plan, c'est d'empêcher les choses de se produire, parce que probablement qu'à l'époque aussi, ils sentaient qu'ils perdaient du pouvoir au profit de ce Jésus qui attirait le peuple et tout cela. Est-ce que vous êtes avec moi?
Oui.
Donc, il y a la foule, le peuple, la grande majorité des gens, il y a cette minorité de gens qu'on retrouve aussi dans la vie moderne. Il y a aussi un autre épisode qui prend place, bien sûr, c'est le paralytique. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique. Le paralytique, pour moi, symbolise quelque chose. Il symbolise une majorité de gens, évidemment. Paralysés par la peur, les problèmes, le passé, le péché, les situations de la vie. Vous savez, il y a plus de gens qui sont prisonniers dans la vie que de gens qui sont libres. Totalement libres. Quand je parle de libre, je ne parle pas d'esclavage physique. Bien sûr qu'on assiste dans certains pays du monde à la manifestation d'esclavage. Je parle de gens qui sont esclaves d'eux-mêmes. Quelqu'un dit un jour, on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. OK? Comme si on était coincé dans nos problèmes, coincé dans plein de choses. Les peurs, j'indique les peurs sur la diapo, c'est quelque chose que les gens n'osent pas. Donc, à la limite, c'est fascinant parce que la Bible dit là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Puis on retrouve parfois des chrétiens beaucoup plus coincés, empêchés que des gens qui sont littéralement libres. Donc, et rappelez-vous ce texte de Jésus qui dit c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Mais pourquoi on est affranchi pour quoi d'autre que la liberté? C'est comme il y a une insistance dans ce texte. C'est pour être libre que je vous ai libéré. Et c'est comme une incitation pour moi de dire, mais restez libre quelque part. Donc, il y a plein de gens qui sont capables de s'identifier aux paralytiques, bien sûr, pas nécessairement dans la paralysie physique, bien qu'effectivement, il y en a qui le sont, mais ils sont paralysés par autre chose, par la vie, par la souffrance, par les blessures, par les déceptions, par les jugements des autres, ils n'osent plus bouger. Leur motivation chez ceux qui peuvent s'identifier aux paralytiques, c'est qu'ils n'en ont plus de motivation. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils aimeraient pouvoir changer les choses. Ils ont essayé, avec bien de volonté. C'est un peu comme quelqu'un qui est un peu attaché avec une camisole de force. Il veut se déprendre, mais à moins qu'il soit Houdini, il ne peut pas se déprendre. Okay? Il est coincé dans tout cela. Et puis souvent, ce qui est fascinant, c'est que les gens disent « Tu devrais changer, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Et tout leur être, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas être jugés. « Je ne suis pas capable. J'essaie, j'ai essayé, je ne suis pas capable. » Voyez-vous? Donc, pour moi, c'est une représentation de bien des gens dans ce monde. Gardez à l'esprit encore une fois qu'il y a plus de gens dans ce monde qui sont malheureux que de gens qui sont heureux. Il y a plus de gens qui sont en désespoir que de gens qui sont gonflés à bloc, prêts à assumer la vie, tout cela. Plein de gens vivent en deçà de la vie qu'ils pourraient vivre. Bien des chrétiens vivent en deçà de la vie qu'ils pourraient vivre. Ils ne saisissent pas la vie. Un jour, l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Combat le bon combat. » Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien sûr, cette vie éternelle-là, ce n'était pas l'au-delà. Là. C'est comme si Paul dit à la... Tu plonges dans l'au-delà, mon Timothée, suicide-toi et tu vas avoir accès à la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, ce n'est pas juste une possession dans l'éternité, c'est une possession actuelle et c'est une expérience actuelle. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une profession devant plusieurs. Je te recommande à Dieu qui donne la vie à toute chose. Donc, essentiellement, le christianisme, c'est l'éclosion, l'explosion de la vie. Et cette vie-là, elle est manifestée à l'intérieur de nous. Mais les gens qui sont paralysés par toutes ces choses n'ont pas accès à cela. Ils ne sont pas capables. On poursuit. Quelques jours après, le texte nous mentionne, Jésus revient à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Alors, encore une fois, imaginez un peu comme une pièce de théâtre où tous les rôles sont partagés, puis le rôle de Jésus, Jésus est là, bien sûr. Qui est-il? C'est un Jésus qui est là, qui est toujours là. Il est venu pour le faible, il est venu pour le malade, il est venu pour le pécheur, il n'est jamais fatigué, même s'il est en repos à la maison. Pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose ce jour-là. Sauveur, guérisseur, consolateur, il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné, il a dit. Celui de pardonner, de transformer, de guérir, de restaurer toutes choses. Et ça, c'est notre Jésus et celui de notre Sauveur à nous. Maintenant, regardez-moi ici, s'il vous plaît. La scène qui prend place, c'est qu'il y a un homme qui est paralysé, qui est là avec son besoin. Okay? Donc, on voit le besoin qui est ici. Et Jésus est dans sa maison. Okay? Et vous êtes d'accord avec moi que Jésus est la solution. Sauf qu'entre le besoin et la solution, il faut qu'il y ait un pont, il faut qu'il y ait un moyen. Okay? Et regardez bien la prochaine diapo. Voici comment ça marche. Entre le besoin, le paralytique, et la solution, Jésus, il y a le moyen. Ce moyen, c'est les relations. Les relations donnent à Dieu la possibilité d'atteindre les humains. Et c'est ça la réalité. Mais suivez-moi bien. Ne doutez jamais de la capacité d'un groupe de personnes de changer le monde. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours comme cela que ça se fait. Des gens se lèvent. Ce samedi, entre près de 800 000 jeunes et des adultes ont manifesté à Washington contre une aberration inimaginable dans une grande démocratie, c'est le recours aux armes de façon libre. 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Il n'y a même pas 100 en Union soviétique. Vous êtes d'accord avec moi? Même dans la pire république dictatoriale, ça n'existe pas. Et ce pays-là, il est juste à côté de nous. Je ne fais pas un jugement chez les Américains. C'est une, eux, ils ne voient pas ça. Il y a une espèce d'enfermement dans leur raisonnement. Mais il y a des jeunes qui ont décidé, et c'est des jeunes qui donnent des leçons à des adultes en disant « ras-le-bol de s'entretuer, de voir nos enfants mourir », mais il y a une espèce d'anesthésie générale. Et c'est un phénomène qui est là, on a tous nos formes d'anesthésie à quelque part, on a des choses qu'on n'est pas capable de voir. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se lèvent. Et fondamentalement, c'est la pensée, c'est ce qui va prendre place ici, c'est la pensée qui m'anime au plus profond de moi-même. C'est-à-dire que des gens peuvent se lever et commencer à changer quelque chose. Voyez-vous? Donc, et regardez bien la prochaine pensée. C'est une citation de C.S. Lewis, l'auteur anglais que vous connaissez. « Dieu semble parfois ne rien faire qu'il pourrait déléguer à ses créatures. Il commande à ses serviteurs de faire tout doucement et maladroitement ce qu'il peut faire parfaitement et en un clin d'œil. » Dites « Wow! » Dieu a choisi de travailler avec nous. Il pourrait faire le travail tout seul, il a pris la décision de travailler avec nous. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Merci, madame. Où êtes-vous? On va se parler, vous et moi, là. Les autres ne sont pas là, là, OK? Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui.
Wow, good. Réveille-toi, toi qui dors, et Dieu t'éclairera. Qui a sorti le peuple hébreu d'Égypte? Dieu ou Moïse? Dieu? Lève la main ceux qui sont pour Dieu. Quels sont ceux qui disent que c'est Moïse? Okay. La réponse? Bien sûr, la réponse, c'est les deux. Est-ce que Dieu aurait pu télétransporter le peuple comme Star Trek, patrouille du cosmos? Beam me up, Scotty. Est-ce qu'il aurait pu faire cela? Là? Est-ce qu'il aurait pu faire cela?
Oui.
Est-ce qu'il l'a fait?
Non.
Est-ce que c'est un moins grand miracle, la sortie d'Égypte? Il s'est cherché un homme. En fait, il y en avait deux. Deux vieux croutons de 80 ans et plus, Moïse et Aaron, ils ont 80 ans. Il se présente devant le Pharaon. « Laisse aller mon peuple. » Pharaon, l'Égypte, c'est la plus grande puissance de l'époque. Mon vieux schnook qui débarque. On dit « Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé. Parce que Dieu a agi. Il a agi en coopération avec ses deux sbires, OK, ce jour-là. Et dans les jours qui ont suivi, bien sûr. Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? Cela signifie... Écoutez-moi bien, si Dieu est capable de se servir de deux vieux de 80 ans, il est capable de se servir de n'importe qui.
Amen.
Et la réalité, c'est que Dieu, effectivement, veut se servir de moi, veut se servir de nous.
Amen.
Rappelez-vous. OK, je pensais que c'était la censure, que j'avais dit quelque chose, je n'allais pas te dire. OK. T'es pas armé, là? T'es pas armé, là? OK. Merci aux techniciens. Perfectionniste. C'est bien ça. Donc, Dieu ne semble parfois ne rien faire qu'il ne délègue à ses créatures. Ses créatures, c'est vous et c'est moi. Maintenant, regardez bien ce qui prend place dans le dernier aspect de la scène. Des gens vers lui amenaient un paralytique porté par quatre hommes. Qui sont-ils? Les porteurs de vie. Une minorité de gens. Catalyseurs, supporteurs, faiseurs. Faiseurs, c'est la traduction française de ce qu'on appelle en anglais « doers ». Quelqu'un qui fait quelque chose, voyez-vous? Pressé d'entreprendre Jésus. N'oubliez pas, le paralytique est là. Vous savez, je suis d'origine des frères, mais après coup, j'ai fréquenté d'autres églises, pas plein d'églises, d'autres églises, une autre église de plus type, un peu plus pentecôtiste. Puis dans les pentecôtistes, il y a des raisonnements. On va dire à quelqu'un, par exemple, « Va chercher ta guérison. » OK? Comment un paralytique peut faire pour aller chercher sa guérison? « Lève-toi, va chercher ta guérison. » Je ne peux même pas me lever. Voyez-vous? Plein d'évangélistes sont passés au Québec et ont dit « Si tu n'as pas été guéri, tu t'as manqué de foi. » Puis moi, je ne suis pas tombé sur un qui me l'a dit une fois, parce que je dirais « Ce paralytique-là n'a aucune foi. » On ne sait même pas qui il est complètement anonyme. Jésus n'a pas dit « voyant sa foi », il a dit « voyant leur foi ». Ça veut dire que devant la détresse de la vie de certaines personnes, c'est notre foi à nous qui peut suppléer à cette situation, à la situation de gens qui sont sans foi, qui n'ont pas la foi. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un changement de conception à comprendre que tout ne repose pas toujours sur les personnes et que parfois ça repose sur un ensemble de personnes. Eux, c'est une minorité de gens qui sont pressés d'entreprendre Jésus et leur motivation, c'est la compassion. Ils ont le pouvoir, excusez-moi, d'activer les choses. Et non seulement ils ont le pouvoir, mais ils vont activer littéralement les choses. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, regardez bien un peu la prochaine diapo. Je vous ai mis juste l'équation de la foi. Parce qu'encore une fois, j'ai été interpellé par le fait que Jésus a dit « voyant leur foi ». Avant de regarder ma petite pyramide, là, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Là, okay? Quand regardez ma petite pyramide, là, regardez-moi. Quand vous allez voir à répétition dans le Nouveau Testament l'expression « voyant leur foi » ou « voyant sa foi », »,« voyant qu'elle avait la foi pour », c'est trop répétitif pour comprendre, pour oublier ou pour mettre de côté le fait que la foi doit jouer un rôle quelque part. Et donc, le texte ici, il y a toutes les fois que je vois ces expressions-là dans le Nouveau Testament, je me dis « mais qu'est-ce que Jésus a vu pour dire que c'est de la foi ?» À quoi j'ai vu la foi? Il y a quatre gars qui sont en haut, ils sont en train de débattre le toit pour descendre dans les paradis. Mais à quoi pourquoi ils disent, voyant leur foi, la foi? La foi, c'est invisible. La foi, c'est intérieur. La foi, c'est en dedans. La foi, c'est personnel. Puis je crois qu'il y a des gens, moi, qui ont une foi tellement profonde qu'ils ne trouvent plus. Mais la foi, c'est visible. Pourquoi? Voici l'équation pour moi de la foi dans cette histoire. La compassion. Deux, quatre gars, à un moment donné, ils ont vu cet homme-là. On ne sait pas si c'est un ami. Je présuppose. Je sors du texte en disant que c'est un ami. Puis je dis, on peut le laisser là, mais Jésus est là. La solution est là, mais il ne pourra jamais se rendre jusqu'à Jésus. Et vous pouvez imaginer ce que c'est que de se sentir laissé pour compte. Tout le monde peut avoir accès, tout le monde peut l'entendre. Puis moi, je suis couché dans mon lit, je ne peux pas bouger, je ne peux pas avancer, tout ça. Donc, il y a eu un sentiment de compassion. Ils ont été interpellés par un besoin, par une souffrance, et cela a éveillé quelque chose en eux de l'ordre de la compassion. Mais la compassion, pour que ça amène vers quelque chose, vous savez, vous pouvez passer toute une soirée à mouiller de vos larmes votre écran HD à la maison et votre moquette en dessous sans que ça change à rien à la scène que vous voyez devant vous. Il y a plein de gens qui souffrent dans ce monde. On est aimés, on est touchés parce qu'on est humain. Mais ça ne change rien. Ils souffrent toujours le lendemain matin, et deux jours après, trois jours après. On voit ça partout. Donc, il faut que la compassion nous amène à faire une conviction. Il faut qu'il y ait quelque chose qui montre, qui dit « Hey, j'ai décidé que je ferais quelque chose. Je veux voir les choses changer. » Je ne veux pas m'anesthésier, je ne veux pas rester seulement dans une émotion, il faut que mon émotion me mène vers quelque chose d'autre, qui est la conviction, la force de conviction. Et la conviction, c'est une force qui s'approche de la foi, d'un certain entêtement, d'une certaine obstination, d'un refus de résignation. Mais tout seul, comment je fais avec un paralytique? Et là, c'est la coopération. C'est tous ensemble, on est beaucoup plus fort qu'un, tous et chacun individuellement. C'est ça la force. Le tout est plus que la somme de ses parties. C'est ça la réalité. Donc, en coopération, les quatre gars peuvent... Je ne sais pas comment ils ont discuté, on n'a pas l'information dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on va faire? Et encore une fois, vous pouvez imaginer des gars qui sont confrontés à plein d'obstacles. Probablement des obstacles personnels. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Non, mais t'es fou, c'est un plan... c'est nul! Et tout à coup, les gars, en discutant avec eux, ont commencé à concocter un plan pour se rendre jusqu'à Jésus. Mais ils voient la scène, ils voient la foule. On passe par en avant, ça ne passe pas. On ne passe pas par en arrière, ni à gauche, ni à droite. On creuse le tunnel? Non. On décide de démonter le toit. Est-ce que vous commencez à avoir la foi? Voyez-vous que la foi devient visible? Parce que toute cette compassion, cette force de conviction, ce travail ensemble d'un commun accord, la mise en commun de nos efforts et le passage à l'action. Parce qu'en fait, les choses ne changent pas au niveau 1, les choses ne changent pas au niveau 2, les choses ne changent pas au niveau 3. Ça, c'est de la planification. Le changement ne prend pas place dans la planification. Le changement ne prend pas place dans la réflexion. La réflexion précède le changement, mais ça ne change rien. Vous pouvez passer votre vie à rêver, à vous imaginer, à réfléchir, à concocter, pensez à quoi que ce soit sans que ça ne change rien. Le changement prend place dans l'action. Le jour où on dit « wow, là, ça fait », et là, on se met à bouger. Et quand on se met à bouger, les choses commencent à bouger. Et c'est là la force. Donc, eux ont bougé, ils se sont rendus jusqu'à Jésus, et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la solution. C'était la solution. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Et tous ensemble, nous pouvons dire, nous n'avons jamais rien vu pareil. Dites encore une fois, wow! Il s'est passé quelque chose, là. Pourquoi il s'est passé quelque chose? Parce que quatre hommes, mus par la compassion et l'amour pour cet homme, ont décidé de passer à l'action. Moi, je suis capable de m'imaginer Jésus assis à la maison, puis d'un coup, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il voit le toit qui. En tout cas, je vous annonce une nouvelle. Si vous arrivez chez moi, on parle de toi, vous allez entendre parler de moi. OK? Mais Jésus, moi, je peux imaginer le visage de Jésus. Il est là. Ah ben, Seigneur! Ce que des gens sont prêts à faire pour se rendre jusqu'à moi. Et c'est ça qui fait réagir Jésus. Puis il y a plein d'histoires de Bartimée, de la femme qui avait une perte de sang. Il y a cette énergie, peut-être une énergie de désespoir, mais j'aime mieux l'appeler l'énergie de la foi, qui dit « on va faire quelque chose, on va faire quelque chose, on va bouger à quelque part ». Et je peux voir Jésus avec un sourire en disant, et si Jésus pouvait nous dire, c'est ça la foi, c'est ça la foi. Et eux, c'est pas des théologiens, c'est pas des pasteurs, c'est quatre gars ordinaires qui décident de faire quelque chose pour leur ami et qui ont changé la vie de cet ami-là. Mais ça, c'est pas eux qui l'ont changé, mais, non, mais ils ont été le moyen pour les amener jusqu'à Jésus. J'ai peut-être le goût de vous poser quelques questions. Avez-vous assez d'amour, de compassion pour bouger? Avez-vous assez d'amour et de compassion pour la ville autour de vous, pour cette région, pour dire, il faudrait qu'on fasse quelque chose? Maintenant, vous savez que l'état de notre société s'en va de plus en plus en détérioration. Vous savez que les deux médicaments les plus prescrits en Amérique du Nord et au Québec et au Canada, c'est les antidépresseurs et les anxiolytiques. La peur, l'anxiété et la dépression. Ça, c'est la condition de la vie tout autour de nous. De gens qui sont malheureux, des gens qui n'ont même plus la foi, qui ont tout perdu, qui ont tout jeté avec les années 60. Et surtout avec un immense besoin. Regardez les mariages, regardez les statistiques, regardez cela. Et eux, c'est le besoin général de la population. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a la solution à tout cela. Et pourquoi quand je dis que c'est la solution? Parce que c'était ma solution à moi. C'était la solution qui m'a changé dans ma vie. Parce que quelqu'un, un jour, le 14 février 1975, m'a parlé de Jésus, dans un moment sombre de ma vie, puis ma vie a changé de son cours. Ce gars-là, d'ailleurs, qui n'est même plus chrétien en passant, c'est fascinant, hein? Il peut être loin de s'imaginer que 43 ans plus tard, je serai ici aujourd'hui, puis je serai partout. Il n'a même pas pu s'imaginer ça, mais Dieu lui le savait. Alors, notre responsabilité, ce n'est pas de prévoir à ce point tout l'impact sur le nombre de décennies, mais c'est de comprendre la responsabilité qu'on a, nous, devant les situations. Maintenant, c'est intéressant de réaliser tout cela, parce que quand je pense aux paralytiques, ce jour-là, ça me fait un peu à au témoignage du frère concernant ce gendarme en France, de la femme qui doit se dire, « Wow, si ce gars-là n'avait pas donné sa vie pour moi, moi, c'est moi qui serais morte maintenant. Et je peux saisir la vie pleinement. Mais si jamais un conseil à dire à cette dame-là, maintenant, faites en sorte que votre vie en vaille de la peine. OK? Vous avez échappé de peu, faites en sorte que votre vie en vaille de la peine. Parce que ça a coûté quelque chose à quelqu'un. C'est la même chose pour chacun de nous. Ça a coûté la vie de Jésus. Fait qu'il faudrait faire en sorte que notre vie vaille de la peine d'être vécue. Et qu'on puisse le glorifier. On a besoin d'amis dans la vie. Quand on est seul, qu'on n'a personne. On a besoin d'amis dans la vie. Pour nous comprendre quand on est perdu dans notre tête, quand on est aux prises avec les doutes. On a besoin d'amis pour nous consoler quand on est dans la tristesse, dans la peine. Le pasteur a fait allusion au drame que j'ai vécu en 2010 quand ma femme est décédée, 159 jours d'hospitalisation. Je l'ai vu mourir 24 heures avant sa mort, je parlais avec elle, à la leucémie. Si je n'avais pas été de mes amis, pas sûr que je serais ici aujourd'hui. Pas dans le sens que je serais même fait à mes jours, dans le sens que je serais encore peut-être mal en point. Parce que c'est dur avec mes fils et tout ça d'assister à la perte de leur mère. Mais j'avais besoin d'amis, puis mes amis ont été là, fidèles avec moi, me supportant quand je n'étais plus capable, voyez-vous? Et j'ai rebondi beaucoup plus rapidement, et je peux faire le travail avec beaucoup plus d'efficacité encore davantage maintenant. On a besoin d'amis dans la vie, quand on est seul et isolé, on a besoin d'amis dans la vie lorsqu'on a mal et qu'on a besoin de parler, de dire les choses. On a besoin d'amis dans la vie quand on n'est plus capable par soi-même. Aide-moi à faire un bout de chemin encore, aide-moi, supporte-moi tout cela. C'est vous le problème dans la vie? C'est que ça prend de la foi. Ça prend de la foi de ces quatre amis-là. Le problème, c'est, je peux vous poser une autre question? Est-ce que vous pourriez me dire ce qui se serait passé si des paralytiques n'avaient rien fait? Rien. Ça ne serait rien passé. Plate comme ça. Ça ne serait rien passé. Moi, je ne peux pas vous garantir que si vous bougez, tout va se passer. Mais je peux vous assurer d'une chose, si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui va changer. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est comme l'Auto-Québec. Hein. Si tu ne prends pas de billet, tu ne gagnes pas. Tu n'as pas de garantie que tu vas gagner, mais si tu n'en prends pas, c'est sûr que tu ne gagnes pas. Parce que les gens ne croient pas que ça pourrait changer, ils ne font rien pour que ça change, et ça ne change pas. Réagissez à quelque part, ici. Là. Parce que je ne crois pas que les choses pourraient changer, je me résigne et les choses ne changent pas. Mais ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit éveille quelque chose à l'intérieur de vous. Que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre famille, que ce soit au bureau avec quelqu'un que vous voyez à chaque jour vivre quelque chose, que ce soit à votre voisin, peu importe. Quittez votre paralysie, votre peur qui est paralysante, quittez vos obstacles. Dites, écoute, peut-être que je suis en train d'impacter quelqu'un. Peut-être que quelque chose va se mettre à changer. Mais si vous ne bougez pas, les choses ne bougeront pas. Et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser ou vous sentir un sentiment de condamnation, mais juste pour vous dire, waouh, c'est fou comment les choses pourraient changer si on se met à l'œuvre. Et vous savez quoi? Pour moi, c'est ça l'Église. Regardez bien la prochaine diapo. L'Église est un corps de croyants dont les vies sont dédiées à Jésus-Christ et qui sont équipés pour servir et rencontrer des gens dans leurs besoins. Je l'ai mentionné un peu hier, vers la fin, je pense, de la dernière session, aux gens qui étaient ici. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est pas tant un endroit où l'on va que quelque chose que l'on est. C'est vous et moi, l'Église. Jésus n'a jamais voulu se faire bâtir des cathédrales. Je vais à chaque année, 2-3 fois par année, à Mexico, la capitale du Mexique, où je travaille avec des églises là-bas. Puis à chaque fois que j'y vais, je me fais un honneur, pas un honneur, un bonheur d'aller visiter la cathédrale de Mexico. La cathédrale de Mexico, elle était assez particulière dans le sens d'une cathédrale qui commence à pencher, parce que Mexico est sur des anciens marais et tout cela. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est le faste, c'est l'art partout. Vous savez, c'est le catholicisme espagnol avec toute la rigueur. Mais ce qui est fascinant, c'est quand on arrive à la cathédrale, on se retrouve dans une scène biblique où tu as tous les estropiés à terre, les gens, il n'y a plus de jambes, ou les gens paralysés, tout ça. Et j'étais là la dernière fois à Pâques, OK, l'an passé. En fait, ce n'est pas la dernière fois, j'étais là à Pâques l'an passé, je suis retourné depuis ce temps-là. Et les gens se fraient un chemin, OK, pour passer, pour aller adorer Dieu dans l'église, OK. Vous imaginez la scène. Est-ce que vous croyez que c'est la pensée de Jésus? Absolument pas. Jésus dit, j'en veux pas de cathédrale, moi. Ce que je veux, c'est que je veux un peuple qui poursuit mon œuvre, qui font des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. C'est ce qu'il dit dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Donc, c'est ça la responsabilité que nous avons. Mais malheureusement, on se retrouve dans un rituel au travers des années, on va à l'Église, c'est l'Église de... Je suis conscient de cela aussi, puis je ne critique pas ça. Je dis juste, mais on perd de vue la réalité la plus importante, que c'est nous qui pouvons changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quand on regarde ce texte symbolise aussi pour moi trois types d'églises. Le peuple symbolise une église professante, mais dont la foi n'est que culturelle et rituelle. Nous vivons dans un pays chrétien. La France est chrétienne, la Suisse est chrétienne, l'Allemagne est chrétienne. Mais c'est de la culture. C'est nos mœurs. On peut dire qu'on est dans un pays chrétien, dans le sens qu'on n'est pas dans un pays musulman, ou dans un pays bouddhiste, ou dans un pays hindou. Mais ça change quoi? C'est la culture, c'est les habitudes. Les pharisiens, c'est le symbole d'une portion de l'Église détachée, déconnectée, centrée sur elle-même, sur sa tradition, qui se préoccupe davantage d'eux-mêmes, de petits clubs sélects, le « nous » versus « eux », ce qui n'est pas la pensée du Nouveau Testament, qui tente de sauvegarder et qui garde son espoir dans le passé, dans tout ce qui s'est passé de bien dans le passé, ce qui était bien dans le passé, mais l'Église... C'est une église pour aujourd'hui. L'église d'hier n'a plus d'aucune efficacité pour la société actuelle, pour le moment présent. Et il y a aussi, bien sûr, les porteurs qui sont symboles d'une église simple, efficace, axée sur les gens et qui veulent voir Dieu agir. Peut-être vous allez dire, c'est facile pour moi de dire cela, j'ai un appel au ministère, puis écoute, c'est un pasteur, c'est un prédicateur, il faut qu'il prêche des choses, il faut qu'il enseigne des choses et tout cela. Mais la vie, c'est plus que de parler. C'est de vivre des choses pleinement. J'ai eu l'occasion dans ma vie de prêcher. Je viens d'une grande église, l'église Nouvelle Vie à Longueuil, on est 4000, presque 3500, 4000. J'ai prêché dans des grandes, grandes églises. J'ai prêché dans une église de 10 000 au Mexique. Et c'est pas ça qui est nourricier. C'est pas ce qui est nourricier. C'est d'aider des gens et de passer du temps avec eux. De connecter, de les voir, d'impacter leur vie. Et nous, comme croyants, quand on passe à l'action comme ça, on est dans les premières loges pour voir le changement dans la vie des gens. OK? C'est plus que du 3D, ça. C'est plus que du comment ça s'appelle, le cinéma IMAX, c'est plus qu'IMAX, OK? Vous accédez à quelque chose et vous y participez. Et quand cela survient, votre vie n'est plus jamais pareille. Et c'est tout d'un coup comme tous les concepts que nous avons, tous les préceptes que nous avons comme chrétiens, tous les concepts, tout d'un coup, tout cela prend vie, prend forme. Ça se réalise devant nous. On peut croire au miracle, on peut croire à la guérison, on peut croire au changement, on peut croire, on se le répète, on y croit, on le professe, mais on ne le voit pas beaucoup. Puis un jour, tout cela prend forme devant nos yeux, on se dit « wow, c'est vrai ». Parce qu'on est dans l'expérience des choses, dans l'expérimentation pleine et entière des choses. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est moi qui conclure avec deux choses. On va mettre, la prochaine diapo, il y a une vidéo qui va apparaître. Il y a quelques années, à peu près 3 ans maintenant, j'ai mis sur pied une formation entièrement sur Internet. Et cette formation était destinée à l'origine à des leaders, pour les amener à comprendre qu'ils aident les gens. Ce qui est fascinant, c'est que les leaders ont très peu réagi. Très, très peu réagi, à un point tel que j'étais profondément découragé, jusqu'au moment où Dieu m'a dit, « Mais pourquoi tu limites ça simplement à un type de personne? » Puis là, j'ai dit, « C'est vrai. » Parce que dans le fond, je suis tombé encore dans le même piège. Ou c'est nous en avant qui sommes sur la plateforme, qui devons faire tout le travail, et vous nous payez pour qu'on fasse le travail, mais cela, il y a une limite à tout cela. Mais tout d'un coup, on comprend que l'Église primitive ne fonctionnait pas de cette façon. Bien sûr, ça prend des dirigeants, mais tout le monde mettait l'épaule à la roue et tout le monde mettait la main à la pâte. Et il y a une lorsqu'un corps local se réveille, c'est fou de voir tout ce qui peut prendre place. La concentration probable de talent qui est ici, je dis probable, pourquoi? Parce que je ne vous connais pas, et que les gens commencent à bouger, des choses vont commencer à changer. Moi, le bonheur que j'ai, c'est que j'assiste à ça dans certains pays. Je vois des gens ordinaires commencer à avoir une idée brillante. Je travaille avec une église à l'île de Réunion, où il y a un petit collège biblique avec eux, à l'église, et un des devoirs des gens, c'est de trouver la façon de créer un nouvel organisme qui rencontre un besoin dans la communauté. Ah, il y a des idées de génie qui ressortent de là. Des idées géniales. Un couple dont l'enfant était malade, qui ont vécu les affres de l'hospitalisation, de veiller un enfant qui est en suite à une chirurgie, multiple chirurgie, tout ça, et qui ont côtoyé des parents, des hommes dans la salle d'attente, de décider de mettre sur pied une association pour les parents avec les enfants, mais eux sont chrétiens. Et tranquillement, c'est des connexions, des relations qu'ils établissent pour les amener dans une direction. C'est une évangélisation qui n'est pas confrontante, c'est-à-dire provocante. Moi, je viens de cette culture-là, OK? Il ne veut pas entendre Jésus, je vais lui faire bouffer un dépliant, qu'il le veuille pas, puis il va comprendre c'est quoi Jésus. Je viens de cette culture-là, ce qu'on appelle l'évangélisation agressive. J'y crois plus, pas dans la vie moderne. Si vous faites ça à certains gens, ils vont vous repousser, vous allez passer à côté. Mais cette église-là, elle a une espèce de devise qui est la suivante. On va tellement vous aimer dans la communauté, dans la ville autour de vous, on va tellement vous aimer que vous allez nous demander pourquoi. Pourquoi vous nous aimez comme ça? Pourquoi vous faites tout ça? Voyez-vous donc, voyez-vous un peu ce que ça amène comme aspiration. C'est génial. Pour moi, c'est génial. Parce que l'amour, ça attire les gens. La confrontation, ça repousse les gens. Mais l'amour, ça attire. C'est la force d'attraction de l'amour. Et Dieu l'a démontré, et Jésus nous l'a démontré. Donc, j'ai mis sur pied cette formation parce que je veux équiper les gens. Qu'ils deviennent des aidants naturels, des gens qui vont non seulement aimer les gens, mais qui vont aider les gens, qui vont les assister. Parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Donc, on va prendre juste une petite minute, ça dure même pas 2 minutes. Regardez un petit peu la vidéo, et après coup, je vais commenter, et après coup, je vais conclure le message. C'est moi que je pense que je n'aurais pas dû appuyer. Recule. OK, allons-y comme ça.
Les gens sont à la recherche de solutions. Ils veulent voir leur vie transformée. Leur mariage. Malgré les moments de découragement, survivre aux crises de la vie. Dans ces moments, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider, et cette personne peut être vous. Mais trop souvent, nous ne savons pas quoi dire, quoi faire pour les aider. Mais il existe une solution. La formation SRA, Solution en relation d'aide. Un programme de formation continue à l'intention des gens qui veulent aider les gens. accessible entièrement sur Internet, il est composé de modules de 10 leçons, comprenant la présentation vidéo, les notes téléchargeables et un cours test. Les trois premiers modules posent les bases du programme et sont suivis de modules thématiques. Faites partie d'une communauté de plus de 400 croyants répartis dans 15 pays de la francophonie. Étudiez dans le confort de votre foyer, à votre rythme, sans pression. Recevez une attestation dès que vous avez terminé les trois premiers modules et pour chaque module thématique. Le pasteur Denis Morissette est un pionnier de la relation d'aide dans le milieu chrétien. Il cumule à la fois une solide expertise professionnelle et une longue expérience pastorale.
Vous savez, j'ai passé presque la totalité de ma vie à Dieu, près de 4 mois, à aider et assister les gens en besoin. J'étais confronté à la souffrance, à la tragédie, mais surtout j'ai été témoin de vie transformée, de cœur guéri et de mariage d'espoir. Je rêve de voir Sylvie, dans l'ensemble de la francophonie, toute une génération de croyants prêts à aimer, aider et assister pour ces gens. Laissez-moi vous aider à les aider.
Bon. Cette formation-là, elle est accessible maintenant depuis 3 ans à peu près, plus que 3 ans. Dans la vidéo, on mentionnait 400 étudiants. Maintenant, on est rendu à 675 étudiants dans 15 pays. Et la formation est en traduction espagnole en ce moment. On a lancé le premier module la semaine passée. Je suis à Mexico City dans 2-3 semaines pour faire le lancement officiel là-bas. Il y a comme une génération de gens qui se lèvent et disent « Nous, là, on ne veut pas être simplement des témoins passifs de la souffrance des autres. On veut pouvoir les aider. » Des jeunes qui aident des jeunes, des plus âgés qui aident des plus âgés, des gens qui aident des gens, et que l'Église qui devient un centre d'entraide. Je suis tellement béni ces derniers mois. J'étais en Suisse la semaine passée, le 10 jours plus tôt, à Bienne, où on a mis sur pied un centre qui s'appelle La Boussole, un centre de formation où l'équipe a été formée par cette formation-là, dont le pasteur est le responsable, et qui veulent toucher les besoins des gens. Parce que les problèmes et les besoins des gens, ça devient un levier pour les amener à l'Évangile. Quand les gens sont malheureux, ils partent à la recherche. Vous savez, quand on a soif, on part à la recherche de points d'eau. On ne fait pas abstraction de la soif, c'est une question de vie ou de mort. Mais les gens ont des besoins intérieurs, sont en quête de quelque chose. Et nous, on est là, on sait. C'est un peu comme si on était en train de mourir, et nous, on a le remède, on ne leur donne pas, parce qu'ils ne savent pas qu'il existe. Voyez-vous? Donc, si cela vous intéresse, cette formation, je vais maintenir à ma table. Vous avez une table avec plein de livres et coffrets là, derrière. Vous avez simplement à me laisser votre nom et votre email. Et d'ici 48 heures, je vais vous envoyer un email en vous répétant un petit peu en quoi cette formation peut vous être utile. Et on a des discussions avec le pasteur, le frère, les anciens aussi, notre frère hier soir. Ça, c'est le fun qu'une équipe se lève encore ici pour que les gens puissent aider. On parle des mariages, des couples qui sont expérimentés. Il y a plein, mais il faut être formé. Vous savez, c'est une chose d'avoir des bonnes intentions, c'est une autre chose d'avoir la formation nécessaire pour bien poser des gestes. Et si ça vous intéresse, donc je me tiens en arrière, vous me laissez votre email, je vous envoie tout cela. Et bien sûr, cela n'est pas gratuit. Évidemment, ça a été fait en studio, c'est d'une qualité incroyable. HD, télécharger les notes, vous avez tout ce qu'il faut. Et par le fait qu'on commence à coopérer ensemble, je vais vous offrir une remise, probablement de l'ordre de 20 %. Je vais tout vous donner ça. Donc, le fait de me laisser votre email, ça ne vous engage pas. Là. Vous ne signez pas un contrat. Vous me donnez la permission de vous envoyer une information et vous décidez après coup. Ça vous va? Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, bien sûr, lorsque j'ai parlé juste avant la vidéo, des 4 porteurs qui sont une manifestation de l'Église de gens ordinaires. Vous savez, ce qui m'attriste dans mon cœur, c'est que je viens d'une génération, d'une époque dans le christianisme qu'on n'était jamais assez qualifié pour faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose. C'est une époque de rigorisme où on n'en finissait plus d'être pointilleux sur des choses, un peu comme les pharisiens. Bon moment, bonjour, il étudie la bonne parole, il n'y a pas le droit de pardonner péché, c'est ça. Mais vous, tous ces détails insignifiants, puis la somme de ces détails rigidifiants, permettez-moi l'expression, ça tue la liberté puisqu'on n'ose plus. Moi, je viens d'une époque où, est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Es-tu vraiment sûr? Est-ce que c'est la vraie volonté? Est-ce que la volonté parfaite de Dieu? Mais là, c'est rendu tellement compliqué que je ne sais plus. J'avais une conviction dans mon cœur, mais là, je viens de l'étouffer, un peu comme de la flamme qui monte, puis on éteint tout ça. Mais il y a toute une autre génération de gens qui diraient, le bol, on veut faire quelque chose pour changer ce monde. Et j'en viens à la dernière pensée. Le jour où l'Église va comprendre qu'elle peut changer le monde ne sera plus jamais pareil. Le jour où l'Église va comprendre, où est-ce que le déclic va se faire, où est-ce que le pop-up va lever dans notre tête. L'Église peut changer ce monde. On va cesser de se résigner. On va cesser de rationaliser en disant des choses sont comme ça. Cesser de rationaliser en disant, mais Jésus revient bientôt, il faut que ça aille de plus en plus mal. Puis que nous, on devient des témoins passifs du fait que le monde s'en va à sa perte. Puis qu'on on a hâte de s'en aller comme de la grande évasion. On s'en va, nous, au ciel. Puis, que veux-tu? Ils ont eu l'occasion. Je ne peux pas vivre avec ça. Moi, je ne peux pas vivre avec ce sentiment-là. Donc, si ça vous intéresse, venez me voir et gardez à l'esprit tout ce que vous pouvez faire. Gardez à l'esprit encore une fois, et c'est ma dernière conclusion, que ces quatre hommes-là sont totalement anonymes. On ne sait pas, on n'entend plus parler d'eux. Ils apparaissent comme de la scène qui prend place dans la vie de Jésus. Ils disparaissent aussitôt. Ils n'ont pas cherché leur place parce qu'en fait, eux étaient simplement des moyens. C'est Jésus qui a performé et qui a changé la vie du paralytique. Et c'est ce qui peut arriver avec chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Penchez la tête et fermez les yeux quelques instants. Alléluia, Jésus. Je m'excuse, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Vous savez, je voudrais qu'il y ait plus qu'une conviction, que ma conviction. Mes convictions. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse parler à vos cœurs. Vous le savez, vous êtes entouré de gens tout autour de vous. Les jeunes qui sont ici, adolescents. Vous avez des amis peut-être qui ont des pensées suicidaires, même certains peut-être qui ont passé à l'acte. Puis ça vous a attristé. Puis peut-être vous-même vous sentez coupable, j'avais dû dire, j'avais dû faire, je sentais qu'il y avait quelque chose. On t'entourait, vous avez des collègues au bureau qui sont en dépression ou en épuisement. On est entouré de gens qui souffrent autour de nous. Et on est là, on sait que Dieu est la solution. Et parfois on n'ose pas bouger parce qu'on a peur, parce qu'on est craintif. Pour être jugé, rejeté, tout cela. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses éveiller les cœurs ici dans ce lieu. Que tu puisses éveiller le cœur de cette Église dans le sens global. Qu'est-ce qui pourrait changer, Seigneur, le jour où on passe à l'action? Comment on pourrait faire la différence dans ce monde en souffrance? Comment on pourrait prendre soin de tous ces gens qui sont autour de nous dans ce monde qui a si besoin? Seigneur, ton message n'est pas passé de date. Donc, ce message n'est pas arrivé à expiration, Seigneur. Il est toujours aussi percutant, aussi efficace pour changer la vie des gens. Mais Seigneur, tu as choisi de travailler avec chacun de nous. Chacun pour notre part. Chacun pour notre portion. Selon nos dons, selon nos talents, selon ce que tu disposes autour de nous et en nous aussi. Seigneur, je prie en ce moment que tu puisses parler à leur cœur par la présence de ton esprit en ce lieu. Seigneur, ton peuple est réuni ici. Tu es au milieu de nous. On le sait par la foi et par l'appui de ta parole. Seigneur, je prie que tu parles à leur cœur, que tu éveilles en eux ce sentiment noble de dire « je veux faire quelque chose ». Et on se sent tellement bien dans des moments comme ça. Seigneur, ma prière, c'est pour eux. Je prie que par ton esprit, tu puisses éveiller leur conscience, leur faire réaliser tout le potentiel qui est parfois inactif dans leur vie. Toutes les possibilités qui se rattachent au fait qu'ils puissent passer à l'action et passer aux actes, Seigneur. Dieu, je prie que tu te manifestes. Merci pour eux. Merci pour leur attention ce matin. Seigneur, maintenant, je remets toutes choses entre tes mains afin que toi, tu agisses au moment où tu le voudras en ton temps, Seigneur, comme on l'a chanté. C'est en ton nom précieux, Jésus, que j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.